Les mille et une nuits, tome 3, chapitre 13, histoire de Marzavan avec la suite de celle de Kamar al-Zaman. La nourrice de la princesse de la Chine avait un fils nommé Marzavan, frère de lait de la princesse, qu'elle avait nourri et élevé avec elle. Leur amitié avait été si grande pendant leur enfance, tout le temps qu'ils avaient été ensemble, qu'ils se traitaient de frères et de sœurs, même après que leur âge un peu avancé eut obligé de les séparer. Entre plusieurs sciences dont Marzavan avait cultivé son esprit dès sa plus grande jeunesse, son inclination l'avait porté particulièrement à l'étude de l'astrologie judiciaire, de la géomance et d'autres sciences secrètes, et il s'y était rendu très habile. Non content de ce qu'il avait appris de ses maîtres, il s'était mis en voyage dès qu'il se fut senti assez de force pour en supporter la fatigue. Il n'y avait pas d'homme célèbre en aucune science et en aucun art qu'il n'eût été cherché dans les villes les plus éloignées et qu'il n'eût fréquenté assez de temps pour en tirer toutes les connaissances qui étaient de son goût. Après une absence de plusieurs années, Marzavan revint enfin à la capitale de la Chine. Et les têtes coupées et rangées qu'il aperçut au-dessus de la porte par où il entra le surprirent extrêmement. Dès qu'il fut rentré chez lui, il lui demanda pourquoi elles y étaient. Et sur toute chose, il s'informa des nouvelles de la princesse, sa sœur de lait, qu'il n'avait pas oublié. Comme on ne put le satisfaire sur la première demande, sans y comprendre la seconde, il apprit en gros ce qu'il souhaitait avec bien de la douleur, en attendant que sa mère, nourrice de la princesse, lui en apprît davantage. Scheherazade mit fin à son discours en cet endroit, pour cette nuit. Elle le reprit la suivante en ces termes, qu'elle adressa au sultan des Indes. 219e nuit. Sire, dit-elle, quoique la nourrice mère de Marzavan fût très occupée auprès de la princesse de la Chine, elle n'eut pas néanmoins plus tôt appris que ce cher fils était de retour, qu'elle trouva le temps de sortir, de l'embrasser et de s'entretenir quelques moments avec lui. Après qu'elle lui racontait, les larmes aux yeux, l'état pitoyable où était la princesse et le sujet pourquoi le roi de la Chine lui faisait ce traitement, Marzavan lui demanda si elle ne pouvait pas lui procurer le moyen de la voir en secret, sans que le roi en eût connaissance. Après que la nourrice y eut pensé quelques moments, « Mon fils, lui dit-elle, je ne puis rien vous dire là-dessus présentement, mais attendez-moi demain à la même heure, je vous en donnerai la réponse. » Comme, après la nourrice, personne ne pouvait s'approcher de la princesse que par la permission de l'eunuque qui commandait à la garde de la porte, la nourrice, qui savait qu'il était dans le service depuis peu et qu'il ignorait ce qui s'était passé auparavant à la cour du roi de la Chine, s'adressa à lui. « Vous savez, lui dit-elle, que j'ai élevé et nourri la princesse. Vous ne savez peut-être pas de même que je l'ai nourrie avec une fille de même âge que j'avais alors et que j'ai mariée il n'y a pas longtemps. La princesse qui lui fait l'honneur de l'aimer toujours voudrait bien la voir, mais elle souhaite que cela se fasse sans que personne la voie ni entrer ni sortir. » La nourrice voulait parler davantage, mais l'eunuque l'arrêta. « Cela suffit, lui dit-il. Je ferai toujours, avec plaisir, tout ce qui sera en mon pouvoir pour obliger la princesse. Faites venir, ou allez prendre votre fille vous-même quand il sera nuit, et amenez-la après que le roi se sera retiré. La porte lui sera ouverte. » Dès qu'il fut nuit, la nourrice alla trouver son fils Marzavan. Elle le déguisa elle-même en femme, d'une manière que personne ne put s'apercevoir que c'était un homme, et la mena avec elle. L'eunuque, qui ne douta pas que ce ne fût sa fille, leur ouvrit la porte et les laissa entrer ensemble. Avant de présenter Marzavan, la nourrice s'approcha de la princesse. « Madame, lui dit-elle, ce n'est pas une femme que vous voyez, c'est mon fils Marzavan, nouvellement arrivé de ses voyages, que j'ai trouvé moyen de faire entrer sous cet habillement. J'espère que vous voudrez bien qu'il ait l'honneur de vous rendre ses respects. » Au nom de Marzavan, la princesse témoigna une grande joie. « Approchez-vous, mon frère, dit-elle aussitôt à Marzavan, et ôtez ce voile. Il n'est pas défendu à un frère et à une sœur de se voir à visage découvert. » Marzavan la salua avec un grand respect, et sans lui donner le temps de parler. « Je suis ravie, continua la princesse, de vous revoir en parfaite santé, après une absence de tant d'années, sans avoir mandé un seul mot de vos nouvelles, même à votre bonne mère. » « Princesse, reprit Marzavan, je vous suis infiniment obligée de votre bonté. Je m'attendais à en apprendre à mon arrivée de meilleure des vôtres que celle dont j'ai été informée, et dont je suis témoin avec toute l'affliction imaginable. Je viens de la joie, cependant, d'être arrivé assez tôt pour vous apporter, après tant d'autres qui n'y ont pas réussi, la guérison dont vous avez besoin. Quand je ne tirerai d'autres fruits de mes études et de mes voyages que celui-là, je ne laisserai pas de m'estimer bien récompensé. » En achevant ces paroles, Marzavan tira un livre et d'autres choses dont il s'était muni et qu'il avait cru nécessaire, selon le rapport que sa mère lui avait fait de la maladie de la princesse. La princesse, qui vit cet attirail, « Quoi, mon frère ? » s'écria-t-elle. « Vous êtes donc aussi de ceux qui s'imaginent que je suis folle ? Désabusez-vous et écoutez-moi. » La princesse raconta à Marzavan toute son histoire, sans oublier une des moindres circonstances, jusqu'à la bague échangée contre la sienne qu'elle lui montra. « Je ne vous ai rien déguisé, ajouta-t-elle, dans tout ce que vous venez d'entendre. Il est vrai qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, qui donne lieu de croire que je ne suis pas dans le bon sens, mais on ne fait pas attention au reste, qui est comme je le dis. » Quand la princesse eut cessé de parler, Marzavan, rempli d'admiration et d'étonnement, demeura quelque temps les yeux baissés, sans dire mot. Il leva enfin la tête et en prenant la parole. « Princesse, dit-il, si ce que vous venez de me raconter est véritable, comme j'en suis persuadé, je ne désespère pas de vous procurer la satisfaction que vous désirez. Je vous supplie seulement de vous armer de patience encore pour quelque temps, jusqu'à ce que j'aie parcouru des royaumes dont je n'ai pas encore approché. Et lorsque vous aurez appris mon retour, assurez-vous que celui pour qui vous soupirez avec tant de passion ne sera pas loin de vous. » Après ces paroles, Marzavan prit congé de la princesse et partit dès le lendemain. Marzavan voyagea de ville en ville, de province en province et d'île en île, et dans chaque lieu où il arrivait, il n'entendait parler que de la princesse Badour, c'est ainsi que se nommait la princesse de la Chine, et de son histoire. Au bout de 4 mois, notre voyageur arriva à Torf, ville maritime, grande et très peuplée, où il n'entendit plus parler de la princesse Badour, mais du prince Kamaralzaman, que l'on disait être malade et dont l'on racontait l'histoire, à peu près semblable à celle de la princesse Badour. Marzavan en eut une joie qu'on ne peut exprimer. Il s'informa en quel endroit du monde était ce prince, et on le lui enseigna. Il y avait 2 chemins, l'un par terre et par mer, et l'autre seulement par mer, qui était le plus court. Marzavan choisit le dernier chemin, et il s'embarqua sur un vaisseau marchand qui eut une heureuse navigation jusqu'à la vue de la capitale du royaume de Charzaman. Mais avant d'entrer au port, le vaisseau passa malheureusement sur un rocher par la malhabileté du pilote. Il périt et coula à fond à la vue et peu loin du château où était le prince Kamaralzaman et où le roi son père, Charzaman, se trouvait alors avec son grand vizir. Marzavan savait parfaitement bien nager. Il n'hésita pas à se jeter à la mer et il alla aborder au pied du château du roi Charzaman, où il fut reçu et secouru par ordre du grand vizir, selon l'intention du roi. On lui donna un habit à changer, on le traita bien, et lorsqu'il fut remis, on le conduisit au grand vizir qui avait demandé qu'on le lui amenât. Comme Marzavan était un jeune homme très bien fait et de bon air, ce ministre lui fit beaucoup d'accueil en le recevant, et il conçut une très grande estime de sa personne par ses réponses justes et pleine d'esprit à toutes les demandes qu'il lui fit. Il s'aperçut même insensiblement qu'il avait 1000 belles connaissances. Cela l'obligea de lui dire. « À vous entendre, je vois que vous n'êtes pas un homme ordinaire. Plût à Dieu que dans mes voyages, vous eussiez appris quelques secrets propres à guérir un malade qui cause une grande affliction dans cette cour depuis longtemps. » Marzavan répondit que s'il savait la maladie dont cette personne était attaquée, peut-être y trouverait-il un remède. Le grand vizir raconta alors à Marzavan l'état où était le prince Kamaralzaman en prenant la chose dès son origine. Il ne lui cacha rien de sa naissance si fort souhaitée, de son éducation, du désir du roi Charzaman de l'engager dans le mariage de bonne heure, de la résistance du prince et de son aversion extraordinaire pour cet engagement, de sa désobéissance en plein conseil, de son emprisonnement, de ses prétendues extravagances dans la prison qui s'étaient changées en une passion violente pour une dame inconnue qui n'avait d'autre fondement qu'une bague que le prince prétendait être la bague de cette dame, laquelle n'était peut-être pas au monde. À ce discours du grand vizir, Marzavan se réjouit infiniment de ce que dans le malheur de son naufrage, il était arrivé si heureusement où était celui qu'il cherchait. Il connut, à n'en pas douter, que le prince Kamaralzaman était celui pour qui la princesse de la Chine brûlait d'amour, et que cette princesse était l'objet des vœux si ardents du prince. Il ne s'en expliqua pas au grand vizir. Il lui dit seulement que s'il voyait le prince, il jugerait mieux du secours qu'il pourrait lui donner. « Suivez-moi, lui dit le grand vizir. Vous trouverez le roi près de lui, qui m'a déjà marqué qu'il voulait vous voir. » La première chose dont Marzavan fut frappé en entrant dans la chambre du prince fut de le voir dans son lit, languissant et les yeux fermés. Quoiqu'il fût en cet état, sans avoir égard au roi Charzaman, père du prince, qui était assis auprès de lui, ni au prince que cette liberté pouvait incommoder, il ne laissa pas de s'écrier. « Ciel ! Rien au monde n'est plus semblable !» Il voulait dire qu'il le trouvait ressemblant à la princesse de la Chine. Et il était vrai qu'ils avaient beaucoup de ressemblances dans les traits. Ces paroles de Marzavan donnèrent de la curiosité au prince Kamaralzaman, qui ouvrait les yeux et le regarda. Marzavan, qui avait infiniment d'esprit, profita de ce moment et il lui fit son compliment, en vers, sur le champ, quoique d'une manière enveloppée, où le roi et le grand vizir ne comprirent rien. Il lui dépeignit si bien ce qui lui était arrivé avec la princesse de la Chine, qu'il ne lui laissa pas lieu de douter qu'il ne la connût, et qu'il ne put lui en apprendre des nouvelles. Il en eut d'abord une joie dont il laissa paraître des marques dans ses yeux et sur son visage. La sultane Scheherazade n'eut pas le temps d'en dire davantage cette nuit. Le sultan lui donna celui de reprendre la nuit suivante et de lui parler en ces termes. 220e nuit. Sire, quand Marzavan eut achevé son compliment en vers, qui surprit le prince Kamaralzaman si agréablement, le prince prit la liberté de faire signe de la main au roi son père de vouloir bien sauter de sa place et de permettre que Marzavan s'y mît. Le roi, ravi de voir dans le prince son fils un changement qui lui donnait bonne espérance, se leva, prit Marzavan par la main et l'obligea de s'asseoir à la même place qu'il venait de quitter. Il lui demanda qui il était et d'où il venait. Et après que Marzavan lui eut répondu qu'il était sujet du roi de la Chine et qu'il venait de ses états, « Dieu veuille, dit-il, que vous tiriez mon fils de sa mélancolie. Je vous en aurai une obligation infinie, et les marques de ma reconnaissance seront si éclatantes que toute la terre reconnaîtra que jamais service n'aura été mieux récompensé. » En achevant ces paroles, il laissa le prince son fils dans la liberté de s'entretenir avec Marzavan, pendant qu'il se réjouissait d'une rencontre si heureuse avec son grand vizir. Marzavan s'approcha de l'oreille du prince Kamaralzaman et en lui parlant bas. « Prince, dit-il, il est temps désormais que vous cessiez de vous affliger si impitoyablement. La dame pour qui vous souffrez m'est connue. C'est la princesse Badour, fille du roi de la Chine qui se nomme Gayour. Je puis vous en assurer sur ce qu'elle m'a appris elle-même de son aventure et sur ce que j'ai déjà appris de la vôtre. La princesse ne souffre pas moins pour l'amour de vous que vous souffrez pour l'amour d'elle. » Il lui fit ensuite le récit de tout ce qu'il savait de l'histoire de la princesse, depuis la nuit fatale qu'ils s'étaient entrevus d'une manière si peu croyable. Il n'oublia pas le traitement que le roi de la Chine faisait à ceux qui entreprenaient en vain de guérir la princesse Badour de sa folie prétendue. « Vous êtes le seul, ajouta-t-il, qui puissiez la guérir parfaitement, et vous présentez pour cela sans crainte. Mais avant d'entreprendre un si grand voyage, il faut que vous vous portiez bien. Alors nous prendrons les mesures nécessaires. Songez donc incessamment au rétablissement de votre santé. » Le discours de Marzavan fit un puissant effet. Le prince Kamaralzaman en fut tellement soulagé par l'espérance qu'il venait de concevoir qu'il se sentit assez de force pour se lever et qu'il pria le roi son père de lui permettre de s'habiller d'un air qui lui donna une joie incroyable. Le roi ne fit qu'embrasser Marzavan pour le remercier sans s'informer du moyen dont il s'était servi pour faire un effet si surprenant. Et il sortit aussitôt de la chambre du prince avec le grand vizir pour publier cette agréable nouvelle. Il ordonna des réjouissances de plusieurs jours. Il fit des largesses à ses officiers et au peuple, des aumônes aux pauvres, et il fit élargir tous les prisonniers. Tout retentit enfin de joie et d'allégresse dans la capitale, et bientôt dans tous les états du roi Charzaman. Le prince Kamaralzaman, extrêmement affaibli par des veilles continuelles et par une longue abstinence presque de toutes sortes d'aliments, eut bientôt recouvré sa première santé. Quand il sentit qu'elle était assez bien rétablie pour supporter la fatigue d'un voyage, il prit Marzavan en particulier, Cher Marzavan, lui dit-il, il est temps d'exécuter la promesse que vous m'avez faite. Dans l'impatience où je suis de voir la charmante princesse et de mettre fin aux tourments étranges qu'elle souffre pour l'amour de moi, je sens bien que je retomberai dans le même état où vous m'avez vu si nous ne partions incessamment. Une chose m'afflige et m'en fait craindre le retardement. C'est la tendresse importune du roi mon père qui ne pourra jamais se résoudre à m'accorder la permission de m'éloigner de lui. Ce sera une désolation pour moi si vous ne trouvez le moyen d'y remédier. Vous voyez vous-même qu'il ne me perd presque pas de vue. » Le prince ne put retenir ses larmes en achevant ces paroles. « Prince, reprit Marzavan, j'ai déjà prévu le grand obstacle dont vous me parlez. C'est à moi de faire en sorte qu'il ne nous arrête pas. Le premier dessein de mon voyage a été de procurer à la princesse de la Chine la délivrance de ses maux, et cela par toutes les raisons de l'amitié mutuelle dont nous nous aimons presque dès notre naissance, du zèle et de l'affection que je lui dois ailleurs. Je manquerais à mon devoir si je n'en profitais pas pour sa consolation et en me mettant pour la vôtre, et si je n'y employais toute l'adresse dont je suis capable. Voici donc ce que j'ai imaginé pour lever la difficulté d'obtenir la permission du roi votre père, telle que nous la souhaitons, vous et moi. Vous n'êtes pas encore sorti depuis mon arrivée. Témoignez-lui que vous désirez de prendre l'air, et demandez-lui la permission de faire une partie de chasse de 2 ou 3 jours avec moi. Il n'y a pas d'apparence qu'il vous la refuse. Quand il vous l'aura accordé, vous donnerez ordre qu'on nous tienne à chacun 2 bons chevaux prêts, l'un pour monter et l'autre de relais, et laissez-moi faire le reste. Le lendemain, le prince Camaralzaman prit son temps. Il témoigna au roi son père l'envie qu'il avait de prendre un peu l'air et le pria de trouver bon qu'il allât à la chasse 1 jour ou 2 avec Marzavan. « Je le veux bien, lui dit le roi, à la charge néanmoins que vous ne coucherez pas dehors plus d'une nuit. Trop d'exercice dans les commencements pourrait vous nuire et une absence plus longue me ferait de la peine. » Le roi commanda qu'on lui choisît les meilleurs chevaux et il prit soin lui-même que rien ne lui manquât. Lorsque tout fut prêt, il l'embrassa et, après avoir recommandé à Marzavan de bien prendre soin de lui, il le laissa partir. Le prince Camaralzaman et Marzavan gagnèrent la campagne. Et pour amuser les 2 palefreniers qui conduisaient les chevaux de relais, ils firent semblant de chasser, et ils s'éloignèrent de la ville autant qu'il leur fut possible. À l'entrée de la nuit, ils s'arrêtèrent dans un logement de caravane où ils soupèrent et dormirent environ jusqu'à minuit. Marzavan, qui s'éveilla le premier, éveilla aussi le prince Camaralzaman sans éveiller les palefreniers. Il pria le prince de lui donner son habit et d'en prendre un autre qu'un des palefreniers avait apporté. Ils montèrent chacun le cheval de relais qu'on leur avait amené. Et après que Marzavan eut pris le cheval d'un des palefreniers par la bride, ils se mirent en chemin en marchant au grand pas de leurs chevaux. À la pointe du jour, les 2 cavaliers se trouvèrent dans une forêt, en un endroit où le chemin se partageait en 4. En cet endroit-là, Marzavan pria le prince de l'attendre un moment et entra dans la forêt. Il y égorgea le cheval du palefrenier, déchira l'habit que le prince avait quitté, le teignit dans le sang, et lorsqu'il eut rejoint le prince, il le jeta au milieu du chemin à l'endroit où il se partageait. Le prince Camaralzaman demanda à Marzavan quel était son dessein. « Prince, répondit Marzavan, dès que le roi votre père verra ce soir que vous ne serez pas de retour, ou qu'il aura appris des palefreniers que nous serons partis sans eux pendant qu'ils dormaient, il ne manquera pas de mettre des gens en campagne pour courir après nous. Ceux qui viendront de ce côté et qui rencontreront cet habit ensanglanté ne douteront pas que quelque bête ne vous ait dévoré et que je ne me sois échappé de crainte de sa colère. Le roi, qui ne vous croira plus au monde, selon leur rapport, cessera d'abord de vous faire chercher et nous donnera lieu de continuer notre voyage sans crainte d'être poursuivi. » La précaution est véritablement violente de donner ainsi tout à coup l'alarme assommante de la mort d'un fils à un père qu'il aime si passionnément. Mais la joie du roi votre père en sera plus grande quand il apprendra que vous serez en vie et content. « Brave Marzavan, reprit le prince Camaralzaman, je ne puis qu'approuver un stratagème si ingénieux, et je vous en ai une nouvelle obligation. » Le prince et Marzavan, munis de bonnes pierreries pour leurs dépenses, continuèrent leur voyage par terre et par mer, et ils ne trouvèrent d'autre obstacle que la longueur du temps qu'il fallut y mettre de nécessité. Ils arrivèrent enfin à la capitale de la Chine, où Marzavan, au lieu de mener le prince chez lui, fit mettre pied à terre dans un logement public des étrangers. Ils y demeurèrent 3 jours à se délasser de la fatigue du voyage, et dans cet intervalle, Marzavan fit faire un bel habit d'astrologue pour déguiser le prince. Les 3 jours passés, ils allèrent au bain ensemble, où Marzavan fit prendre l'habillement d'astrologue au prince, et à la sortie du bain, il le conduisit jusqu'à la vue du palais du roi de la Chine, où il le quitta pour aller faire avertir la mère nourrice de la princesse Badour de son arrivée, afin qu'elle en donnât avis à la princesse. La sultane Scheherazade en était à ses derniers mots lorsqu'elle s'aperçut que le jour avait déjà commencé de paraître. Elle cessa aussitôt de parler, et en poursuivant la nuit suivante, elle dit au sultan des Indes. 221e nuit. Sire, le prince Kamaralzaman, instruit par Marzavan de ce qu'il devait faire, et muni de tout ce qui convenait à un astrologue, avec son habillement, s'avança jusqu'à la porte du palais du roi de la Chine. Et en s'arrêtant, il cria à haute voix en présence de la garde et des portiers. « Je suis astrologue et je viens donner la guérison à la respectable princesse Badour, fille du haut et puissant monarque Gayour, roi de la Chine, aux conditions proposées par sa majesté de l'épouser si je réussis, ou de perdre la vie si je ne réussis pas. » Outre les gardes et les portiers du roi, la nouveauté fit assembler en un instant une infinité de peuples autour du prince Kamaralzaman. En effet, il y avait longtemps qu'il ne s'était présenté ni médecin, ni astrologue, ni magicien, depuis tant d'exemples tragiques de ceux qui avaient échoué dans leur entreprise. On croyait qu'il n'y en avait plus au monde, ou du moins qu'il n'y en avait plus d'aussi insensés. À voir la bonne mine du prince, son air noble, la grande jeunesse qui paraissait sur son visage, il n'y en eut pas un à qui il ne fît compassion. « À quoi pensez-vous, Seigneur ?» lui dirent ceux qui étaient le plus près de lui. « Quelle est votre fureur d'exposer ainsi à une mort certaine une vie qui donne de si belles espérances ? Les têtes coupées que vous avez vues au-dessus des portes ne vous ont-elles pas fait horreur ? Au nom de Dieu, abandonnez ce dessein de désespérer, retirez-vous !» À ces remontrances, le prince Kamaralzaman demeura ferme, et au lieu d'écouter ses harangueurs, comme il vit que personne ne venait pour l'introduire, il répéta le même cri avec une assurance qui fit frémir tout le monde, et tout le monde s'écria alors. « Il est résolu à mourir, et Dieu veuille avoir pitié de sa jeunesse et de son âme !» Il cria une troisième fois, et le grand vizir enfin vint le prendre en personne de la part du roi de la Chine. Ce ministre conduisit Kamaralzaman devant le roi. Le prince ne l'eut pas plutôt aperçu assis sur son trône qu'il se prosterna et baisa la terre devant lui. Le roi, qui, de tous ceux qu'une présomption démesurée avait fait venir apporter leur tête à ses pieds, n'en avait encore vu aucun digne qu'il arrêtât ses yeux sur lui et eut une véritable compassion de Kamaralzaman par rapport au danger auquel il s'exposait. Il lui fit aussi plus d'honneur. Il voulut qu'il s'approchât et s'assit près de lui. « Jeune homme, lui dit-il, j'ai de la peine à croire que vous ayez acquis à votre âge assez d'expérience pour oser entreprendre de guérir ma fille. Je voudrais que vous puissiez y réussir. Je vous la donnerai en mariage, non seulement sans répugnance, mais même avec la plus grande joie du monde, au lieu que je l'aurais donnée avec bien du déplaisir à qui que ce fût de ceux qui sont venus avant vous. Mais je vous déclare avec bien de la douleur que si vous y manquez, votre grande jeunesse, votre air de noblesse, ne m'empêcheront pas de vous faire couper le cou. Sire, reprit le prince Kamaralzaman, j'ai des grâces infinies à rendre à votre majesté de l'honneur qu'elle me fait et de tant de bonté qu'elle témoigne pour un inconnu. Je ne suis pas venu d'un pays si éloigné que son nom n'est peut-être pas connu dans vos états pour ne pas exécuter le dessein qui m'y a amené. Que ne dirait-on pas de ma légèreté si j'abandonnais un dessein si généreux après tant de fatigues et tant de dangers que j'ai essuyés? Votre Majesté elle-même ne perdrait-elle pas l'estime qu'elle a déjà conçue de ma personne? Si j'ai à mourir, sire, je mourrai avec la satisfaction de n'avoir pas perdu cette estime après l'avoir méritée. Je vous supplie donc de ne pas me laisser plus longtemps dans l'impatience de faire connaître la certitude de mon art par l'expérience que je suis prête à en donner. » Le roi de la Chine commanda à l'eunuque, garde de la princesse Badour, qui était présent, de mener le prince Kamaralzaman chez la princesse sa fille. Avant de le laisser partir, il lui dit qu'il était encore à sa liberté de s'abstenir de son entreprise. Mais le prince ne l'écouta pas. Il suivit l'eunuque avec une résolution, ou plutôt avec une ardeur étonnante. L'eunuque conduisit le prince Kamaralzaman, et quand ils furent dans une longue galerie au bout de laquelle était l'appartement de la princesse, Le prince, qui se vit si près de l'objet qui lui avait fait verser tant de larmes, et pour lequel il n'avait cessé de soupirer depuis si longtemps, pressa le pas et devança l'eunuque. L'eunuque pressa le pas de même et eut de la peine à le rejoindre. « Où allez-vous donc si vite ? » lui dit-il en l'arrêtant par le bras. « Vous ne pouvez pas entrer sans moi. Il faut que vous ayez une grande envie de mourir pour courir si vite à la mort. Pas un de tant d'astrologues que j'ai vus et que j'ai amenés où vous n'arriverez que trop tôt n'a témoigné cet empressement. « Mon ami, reprit le prince Kamaralzaman, en regardant l'eunuque et en marchant à son pas, c'est que tous ces astrologues dont tu parles n'étaient pas sûrs de leur science comme je le suis de la mienne. Ils savaient avec certitude qu'ils perdraient la vie s'ils ne réussissaient pas, et ils n'en avaient aucune de réussir. C'est pour cela qu'ils avaient raison de trembler en approchant du lieu où je vais et où je suis certain de trouver mon bonheur. » Il en était à ces mots lorsqu'ils arrivèrent à la porte. L'eunuque ouvrit et introduisit le prince dans une grande salle dont l'on entrait dans la chambre de la princesse, qui n'était fermée que par une portière. Avant d'entrer, le prince Kamaralzaman s'arrêta, et en prenant un ton beaucoup plus bas qu'auparavant, de peur qu'on ne l'entendît de la chambre de la princesse. « Pour te convaincre, dit-il à l'eunuque, qu'il n'y a ni présomption, ni caprice, ni feu de jeunesse dans mon entreprise, je laisse l'un des deux à ton choix. Qu'aimes-tu mieux? Que je guérisse la princesse en ta présence, ou d'ici, sans aller plus avant et sans la voir? » L'eunuque fut extrêmement étonné de l'assurance avec laquelle le prince lui parlait. Il cessa de l'insulter, et en lui parlant sérieusement. « Il n'importe pas, lui dit-il, que ce soit là ou ici. De quelque manière que ce soit, vous acquérez une gloire immortelle, non seulement dans cette cour, mais même par toute la terre habitable. Il vaut donc mieux, reprit le prince, que je la guérisse sans la voir, afin que tu rendes témoignage de mon habileté. Quelle que soit mon impatience de voir une princesse d'un si haut rang, qui doit être mon épouse, en ta considération néanmoins, je veux bien me priver quelques moments de ce plaisir. » Comme il était fourni de tout ce qui distinguait un astrologue, il tira son écritoire et du papier et écrivit ce billet à la princesse de la Chine. Billet du prince Kamaralzaman à la princesse de la Chine. Adorable princesse, l'amoureux prince Kamaralzaman ne vous parle pas des maux inexprimables qu'il souffre depuis la nuit fatale que vos charmes lui firent perdre une liberté qu'il avait résolu de conserver toute sa vie. Il vous marque seulement qu'alors il vous donna son cœur dans votre charmant sommeil. Sommeil importun, qui le priva du vif éclat de vos beaux yeux, malgré ses efforts pour vous obliger de les ouvrir. Il osa même vous donner sa bague pour marquer de son amour, et prendre la vôtre en échange, qu'il vous envoie dans ce billet. Si vous daignez la lui renvoyer pour gage réciproque du vôtre, il s'estimera le plus heureux de tous les amants. Sinon, votre refus ne l'empêchera pas de recevoir le coup de la mort, avec une résignation d'autant plus grande qu'il le recevra pour l'amour de vous. Il attend votre réponse dans votre antichambre. » Lorsque le prince Kamaralzaman eut achevé ce billet, il en fit un paquet avec la bague de la princesse et l'enveloppa dedans, sans faire voir à l'eunuque ce que c'était. Et en le lui donnant, « Ami, dit-il, prends et porte ce paquet à ta maîtresse. Si elle ne guérit du moment qu'elle aura lu le billet et vu ce qui l'accompagne, je te permets de publier que je suis le plus indigne et le plus impudent de tous les astrologues qui ont été, qui sont et qui seront à jamais. » Le jour que la sultane Scheherazade vit paraître en achevant ses paroles, l'obligea d'en demeurer là. Elle poursuivit la nuit suivante et dit au sultan des Indes. 222e nuit. Sire, l'eunuque entra dans la chambre de la princesse de la Chine et en lui présentant le paquet que le prince Kamaralzaman lui envoyait. « Princesse, dit-il, un astrologue le plus téméraire que les autres, si je ne me trompe, vient d'arriver, et prétend que vous serez guérie dès que vous aurez lu ce billet, et vu ce qui est dedans. Je souhaiterais qu'il ne fût ni menteur, ni imposteur. » La princesse Badour prit le billet et l'ouvrit avec assez d'indifférence. Mais dès qu'elle vit sa bague, elle ne se donna presque pas le loisir d'achever de lire. Elle se leva avec une précipitation, rompit la chaîne qui la tenait attachée, de l'effort qu'elle fit, courut à la portière et l'ouvrit. La princesse reconnut le prince la reconnut. Aussitôt, ils coururent l'un à l'autre, s'embrassèrent tendrement, et sans pouvoir parler dans l'excès de leur joie, ils se regardèrent longtemps, en admirant comment ils se renvoyaient après leur première entrevue, à laquelle ils ne pouvaient rien comprendre. La nourrice, qui était accourue avec la princesse, les fit entrer dans la chambre, où la princesse rendit sa bague au prince. Reprenez-la, lui dit-elle. Je ne pourrai pas la retenir sans vous rendre la vôtre, que je veux garder toute ma vie. Elles ne peuvent être l'une et l'autre en de meilleures mains. L'eunuque, cependant, était allé en diligence avertir le roi de la Chine de ce qui venait de se passer. Sire, lui dit-il, tous les astrologues, médecins et autres, qui ont osé entreprendre de guérir la princesse jusqu'à présent, n'étaient que des ignorants. Ce dernier venu ne s'est servi ni de grimoire, ni de conjuration d'esprit malin, ni de parfum, ni d'autre chose. Il l'a guérie sans la voir. Il lui en raconta la manière, et le roi, agréablement surpris, vint aussitôt à l'appartement de la princesse qu'il embrassa. Il embrassa le prince de même, prit sa main, et en la mettant dans celle de la princesse. « Heureux étranger, lui dit-il, qui que vous soyez, je tiens ma promesse, et je vous donne ma fille pour épouse. À vous voir, néanmoins, il n'est pas possible que je me persuade que vous soyez ce que vous paraissez, et ce que vous avez voulu me faire accroire. » Le prince Camarazaman remercia le roi dans les termes les plus soumis pour lui témoigner mieux sa reconnaissance. « Pour ce qui est de ma personne, sire, poursuivit-il, il est vrai que je ne suis pas astrologue, comme votre majesté l'a bien jugé. Je n'en ai pris que l'habillement pour mieux réussir à mériter la haute alliance du monarque le plus puissant de l'univers. Je suis né prince, fils de roi et de reine. Mon nom est Camaralzaman, et mon père s'appelle Charsaman. Il règne dans les îles assez connues des enfants de Calédan. » Ensuite, il lui raconta son histoire, et lui fit connaître combien l'origine de son amour était merveilleuse, que celle de l'amour de la princesse était la même, et que cela se justifiait par l'échange des deux bagues. Quand le prince Camaralzaman eut achevé, « Une histoire si extraordinaire, s'écria le roi, mérite de n'être pas inconnue à la postérité. Je la ferai faire, et après que j'en aurai fait mettre l'original en dépôt dans les archives de mon royaume, je la rendrai publique, afin que de mes états, elle passe encore dans les autres. » La cérémonie du mariage se fit le même jour, et l'on en fit des réjouissances solennelles dans toute l'étendue de la Chine. Marzavan ne fut pas oublié. Le roi de la Chine lui donna entrée dans sa cour en l'honorant d'une charge, avec promesse de l'élever dans la suite à d'autres plus considérables. Le prince Camarazaman et la princesse Badour, l'un et l'autre au comble de leurs souhaits, jouirent des douceurs de l'humaine. Et pendant plusieurs mois, le roi de la Chine ne cessa de témoigner sa joie par des fêtes continuelles. Au milieu de ses plaisirs, le prince Camarazaman eut un songe une nuit dans lequel il lui sembla de voir le roi Charsaman, son père, au lit, prêt à rendre l'âme, qui disait « Ce fils que j'ai mis au monde, que j'ai chéri si tendrement, ce fils m'a abandonné, et lui-même est cause de ma mort. » Il s'éveilla en poussant un grand soupir, qui veilla aussi la princesse, et la princesse Badour lui demanda de quoi il soupirait. « Hélas ! » s'écria le prince. Peut-être qu'à l'heure où je parle, le roi mon père n'est plus de ce monde. » Et il lui raconta le sujet qu'il avait d'être troublé d'une si triste pensée. Sans lui parler du dessein qu'elle conçut sur ce récit, la princesse, qui ne cherchait qu'à lui complaire, et qui connut que le désir de revoir le roi son père pourrait diminuer le plaisir qu'il avait à demeurer avec elle dans un pays si éloigné, profita le même jour de l'occasion qu'elle eut de parler au roi de la Chine en particulier. « Sire, lui dit-elle en lui baisant la main, j'ai une autre grâce à demander à votre majesté, et je la supplie de ne me la pas refuser. Mais afin qu'elle ne croie pas que je la demande à la sollicitation du prince mon mari, je l'assure auparavant qu'il n'y a aucune part. C'est de vouloir bien agréer que j'aille voir avec lui le roi Charsaman, mon beau-père. Ma fille, reprit le roi, quelque déplaisir que votre éloignement doive me coûter, je ne puis désapprouver cette résolution. Elle est digne de vous, nonobstant la fatigue d'un si long voyage. Allez, je le veux bien, mais à condition que vous ne demeurerez pas plus d'un an à la cour du roi Charsaman. Le roi Charsaman voudra bien, comme je l'espère, que nous nous en usions ainsi et que nous nous revoyions tour à tour, lui, son fils, sa belle-fille, et moi, ma fille et mon gendre. » La princesse annonça ce consentement du roi de la Chine au prince Camaralzaman, qui en eut bien de la joie, et il la remercia de cette nouvelle marque d'amour qu'elle venait de lui donner. Le roi de la Chine donna ordre aux préparatifs du voyage. Et lorsque tout fut en état, il partit avec eux et les accompagna quelques journées. La séparation se fit enfin avec beaucoup de larmes de part et d'autre. Le roi les embrassa tendrement, et après avoir prié le prince d'aimer toujours la princesse sa fille comme il l'aimait, il les laissa continuer leur voyage et retourna à sa capitale en chassant. Le prince Camaralzaman et la princesse Badour n'eurent pas plutôt essuyé leurs larmes qu'ils ne songèrent plus qu'à la joie que le roi Charzaman aurait de les voir et de les embrasser, et qu'à celle qu'ils auraient eux-mêmes. Environ au bout d'un mois qu'ils étaient en marche, ils arrivèrent à une prairie d'une vaste étendue et plantée d'espace en espace de grands arbres qui faisaient un ombrage très agréable. Comme la chaleur était excessive ce jour-là, le prince Camaralzaman jugea à propos d'y camper et il en parla à la princesse Badour qui consentit d'autant plus facilement qu'elle voulait lui en parler lui-même. On mit pied à terre dans un bel endroit. Et dès que la tente fut dressée, la princesse Badour, qui était assise à l'ombre, y entra, pendant que le prince Camaralzaman donnait ses ordres pour le reste du campement. Pour être plus à son aise, elle se fit ôter sa ceinture que ses femmes posèrent près d'elle. Après quoi, comme elle était fatiguée, elle s'endormit et ses femmes la laissèrent seule. Quand tout fut réglé dans le camp, le prince Camaralzaman vint à la tente. Et comme il vit que la princesse dormait, il entra et s'assit sans faire de bruit. En attendant qu'il s'endormît peut-être aussi, il prit la ceinture de la princesse. Il regarda l'un après l'autre les diamants et les rubis dont elle était enrichie, et il aperçut une petite bourse cousue sur l'étoffe fort proprement et fermée avec un cordon. Il la toucha et sentit qu'il y avait quelque chose dedans qui résistait. Curieux de savoir ce que c'était, il ouvrit la bourse. Et il en tira une cornaline gravée de figures et de caractères qui lui étaient inconnus. Il faut, dit-il en lui-même, que cette cornaline soit quelque chose de bien précieux. Ma princesse ne la porterait pas sur elle avec tant de soin, de crainte de la perdre si cela n'était. En effet, c'était un talisman dont la reine de la Chine avait fait présent à la princesse sa fille pour la rendre heureuse, à ce qu'elle disait, tant qu'elle le porterait sur elle. Pour mieux voir le talisman, le prince Camaralzaman sortit hors de la tente qui était obscure et voulut le considérer au grand jour. Comme il le tenait au milieu de la main, un oiseau fondit de l'air tout à coup et le lui enleva. Le jour se faisait déjà voir dans le temps que la sultane Scheherazade en était à ses dernières paroles. Elle s'en aperçut et cessa de parler. Elle reprit le même conte la nuit suivante et dit au sultan Shahriar. Fin du tome troisième.